octobre prochain.
Merci beaucoup. La justice américaine qui a inculpé hier l'ex-président cubain Raúl Castro, le frère de Fidel. On l'a accusé de meurtre d'Américains en 1996. On parle d'un développement assez spectaculaire qui serait vu comme un moyen de pression supplémentaire sur Cuba, qui serait appelé à choisir une nouvelle voie. On en parle avec Luc Laliberté, qui est chroniqueur politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair, qui est avec nous. Salut Luc!
Oui, bonjour à vous deux, bon matin.
Beau gilet du Canadien, soit dit en passant.
Ah, c'est une journée de match, c'est devenu... Écoute, depuis que je l'ai, je n'ai pas perdu les jours où les Canadiens jouaient, donc est-ce qu'on va jinxer le match de ce soir en portant autre chose? Il n'en est pas question.
Voilà, voilà. Est-ce que c'est une surprise pour toi, ce type de manœuvre-là de la part des Américains pour mettre encore plus de pression sur Cuba?
C'est-à-dire de mettre de la pression au moment où on se parle, ce n'était pas une surprise. Qu'on aille cette fois-là chercher ou viser par les inculpations Raúl Castro, je ne suis pas certain qu'on était beaucoup à avoir ça dans notre agenda ou dans notre boule de cristal quand on observait ce qui se passait à Cuba. Mais quand on observe les dernières semaines, et je pense même qu'on l'a abordé ensemble ou avec Jeff dans l'émission du midi, dans les trois dernières semaines, il y a vraiment une intensification de la pression. La plus spectaculaire avant la journée d'hier, c'est quand le directeur de la CIA débarque lui-même à La Havane. Ça a étonné tout le monde parce que on l'avait dit au moment où ça s'est passé, mais la CIA, c'est comme l'ennemi absolu du régime cubain. Donc là, on avait reçu John Ratcliffe. Et pour faire le lien avec ce dont on parle ce matin, je vous rappelle que Ratcliffe avait dit au moment de sa rencontre à La Havane, regardez ce qui est arrivé à Maduro. Et c'est en lien direct avec la question qu'on se pose maintenant, donc qu'on a déposé ou qu'on a inculpé Raúl Castro, c'est peut-on aller le chercher? Est-ce que les Américains iraient jusqu'à répéter le genre d'opération qui a permis d'aller chercher Maduro? Mais quand je parlais de la journée d'hier comme étant très importante et de l'intensification de la pression, il y a deux choses hier. Il n'y a pas eu que Raúl Castro. C'était la journée où on commémore l'indépendance de Cuba, donc c'était le 20 mai 1902. Donc le 20 mai, hier, on a deux choses coup sur coup dans la journée. On commence la journée avec une déclaration de Marco Rubio enregistrée puis diffusée sur les réseaux sociaux pour parler directement aux Cubains. Puis ça sentait la provocation ou l'incitation au soulèvement. C'est vous êtes des pions d'un régime corrompu qui sert un gros conglomérat, qui contrôle l'économie cubaine. Donc, venir joindre les États-Unis ou appuyer ce qu'on vous offre comme nouvelle voie. Puis ensuite, il y a eu effectivement l'inculpation de Raúl Castro pour des choses qu'on sait que les Cubains ont fait. Ce qui resterait à déterminer pour Raúl Castro, c'est qu'il était le ministre de la Défense au moment où ça s'est produit. Il aurait abattu, donc, il aurait autorisé d'abattre deux avions, des avions civils. Il y a quatre Américains qui sont morts, donc il est accusé de complot, il est accusé d'avoir abattu des avions et d'avoir tué quatre Américains.
C'était quatre Américains qui étaient vus par des opposants comme des gens quand même dangereux. Là. On les appelait les frères à la rescousse, donc les Brothers to the Rescue. Ouais. Est-ce que Raúl Castro représente encore l'incarnation du pouvoir communiste à Cuba, même à 94 ans?
Voilà, c'est le geste, il est hautement symbolique. Donc, Raúl Castro, il n'a une valeur que pour ça, pour les Américains, je parle. Donc, c'est plus quelqu'un qui décide, ce n'est plus quelqu'un qui a une très grande influence. Mais au plan historique, c'est la Révolution cubaine, c'est bien sûr Fidel Castro, c'est Che Guevara, c'est la longévité de ce régime-là qui a résisté à tout ce qu'il y a eu d'attaques ou de complots américains pour le renverser. Et c'est là que j'évoquais la CIA tout à l'heure. Donc, ça a une valeur de symbole très importante. Et c'est pas pour rien que c'est son petit-fils qui a accueilli la semaine dernière John Ratcliffe à La Havane. Celui qu'on appelle Raulito, c'est le petit-fils de Raúl Castro. Lui non plus dans le régime, c'est pas un joueur qui pèse très lourd. C'est pas quelqu'un qu'on invite à la table quand on a des décisions majeures à prendre. Mais si on l'invite à accueillir Ratcliffe, c'est pour appuyer sur le bouton symbole Castro, symbole de la résistance puis de la résilience cubaine. Donc, mais non, Fidel Castro, c'est... Et c'est peut-être pour ça que les Américains, je ne peux pas vous certifier ça, n'iront pas le chercher. On l'accuse et on aurait pu le faire avant. On discute de ça depuis Bill Clinton. Ça commence à faire longtemps. Là. On est C'est arrivé en 1996, là, ce qu'on reproche à Castro. Donc, on aurait pu le faire avant, mais on choisit le symbole maintenant. Mais je serais étonné qu'on lui réserve un Maduro, donc qu'on
Mais
voit une opération
ouais.
comme celle-là.
Mais Luc Laliberté, ce que le secrétaire américain mentionnait hier, ce secrétaire américain à la justice là, qui a été mis là par intérim, c'est Todd Blanchet. Lui, il dit, non, c'est pas une mise en scène. Là. Il y a vraiment un mandat d'arrêt qui a été délivré à son encontre. On s'attend donc à ce qu'il se présente ici, chez nous, de son gré ou encore d'une autre manière et que par la suite, il soit incarcéré. Toi, tu ne crois pas du tout au fait que ce soit sérieux, cette histoire-là. C'est une
Ben,
manœuvre, tout simplement.
non, c'est-à-dire pas du tout. Puis s'il y a une chose qu'on a appris après 10 ans de Donald Trump, c'est que parfois il parle beaucoup, parfois il recule, mais ça arrive aussi qu'il parle et qu'il fasse exactement ce qu'il dit. Donc, c'est là où je peux pas te répondre avec certitude, il n'y aura pas de procès, ou encore, les Américains ne vont pas débarquer sur l'île. Mais je vois pas stratégiquement, au moment où on se parle, pourquoi ils le feraient. À moins de vouloir exploiter un symbole très, très, très fort. Mais je répète, il n'a plus d'influence, Castro, dans le régime. Et ce qu'on veut surtout, c'est rappeler à ce régime-là, ben, qu'ils sont ébranlés, qu'ils sont à genoux, puis que les Américains souhaitent finalement que ce régime-là tombe, ou encore qu'ils coopèrent très ouvertement avec les États-Unis, ce que le régime cubain, hier en passant, a confirmé. C'est, nous sommes toujours intéressés à discuter avec les Américains, puis on les avait invités à la Havane. On est prêts à négocier. Mais de ce côté-là aussi, est-ce que c'est un écran de fumée pour gagner du temps ou si Cuba est réellement ouvert à des négociations? Moi, je pense qu'ils n'ont presque pas le choix dans l'état actuel des choses. Il n'y a personne qui ne va venir au secours de Cuba au moment où on se parle.
Parce que Cuba est sous embargo américain depuis les années 60, en 1962, et là, on impose un blocus pétrolier total. Ça commence à faire pitié, là.
Non, c'est. Écoute, il y a. C'est toujours difficile de placer ou de faire comme une échelle pour dire ce qui est le pire ou le moins pire, mais ça ressemble à la pire crise humanitaire dans un pays qui n'en est pas à sa première crise humanitaire. Et comme au plan économique, à l'époque de la guerre froide, Cuba tenait parce qu'on avait encore des rapports avec l'Union soviétique, parce qu'on pouvait approvisionner ce régime-là. Mais quiconque est allé à Cuba depuis la fin de la guerre froide, a constaté, si vous êtes sorti des resorts, souvent on y va là, pour les tout inclus, mais si vous sortez des tout inclus pour visiter l'île, des pénuries, des problèmes d'approvisionnement, ils étaient déjà nombreux avant la situation actuelle. Et le fait justement que le Venezuela, qui était le principal fournisseur de pétrole, soit maintenant plus ou moins contrôlé par les États-Unis et qu'il y ait ce blocus, je vois mal comment ce régime-là peut obtenir de l'aide. Et ce que Donald Trump a dit hier, c'est dans mes mots, mais c'est on va cueillir le fruit mûr. C'est ce régime-là, il a tenté de calmer le jeu aussi. C'est pourquoi aller le frapper alors qu'il est sur le point de tomber. Donc, on va attendre qu'il tombe. C'est un peu ce qu'il a dit hier en répondant à des questions des journalistes.
Luc, est-ce qu'éventuellement, puis je parle à la fin du mandat de Donald Trump, on va avoir une Amérique où le Venezuela, Cuba et également le Groenland vont être vraiment sous l'emprise des Américains?
Ça, c'est, ce serait, dans un sens, la logique respectée de la nouvelle politique de sécurité nationale. Quand on regarde ce qu'on a couché sur le papier dans un document qui, je le répète souvent, est disponible en ligne, on aurait quelqu'un de passionné qui décide d'aller lire là-dessus, d'aller vérifier le contenu, vous pouvez le facilement le trouver en ligne. Donc, la politique de sécurité nationale des États-Unis, ça fait partie de ce contrôle sur l'Amérique que souhaitent exercer les États-Unis. Donc, on est rendu dans la gestion des interactions sur le plan international on respecte des zones d'influence. Les Américains n'interviennent pas dans d'autres zones d'influence. Bon, ils le font dans des cas spéciaux comme le cas de l'Iran, mais sinon, essentiellement, ce que les États-Unis veulent faire, c'est assurer la protection de leur zone d'influence. Donc, on l'a vu avec certains pays, c'est toujours difficile de négocier. On l'a vu pour le Canada, on le voit pour le Mexique. Dans d'autres pays, carrément, les États-Unis vont jusqu'à recourir à la force, puis à la force militaire. Donc, on l'a vu avec le Venezuela, on vient de parler du cas de Cuba. Le Groenland, Donald Trump a remis le couvercle sur le chaudron dans lequel il évoquait souvent qu'il allait prendre le contrôle du Groenland, annexer, acheter le Groenland. Il a abandonné cette idée, mais là, ce qui revient, et ça me semble logique de la part de Donald Trump et même de la part de n'importe quel gouvernement américain, c'est que ce qu'on veut faire avec le Groenland, c'est exploiter une entente qui est très vieille, qui remonte à 1951, qui dit finalement que les Américains sont autorisés à installer des bases militaires au Groenland. Et on en a eu jusqu'à 17 au moment de la guerre froide, et les États-Unis en ont, au moment où on se parle, une seule. Et ce que l'administration Trump dit, c'est, ben écoutez, avec la fonte des glaces, avec le trafic qui va augmenter dans l'Atlantique Nord, et c'est une réalité, là, on est rendu là, ben eux disent, on pense que c'est le temps de replacer plus de bases militaires, et on en construit 3. Donc, ce serait, depuis la fin de la guerre froide, le nombre le plus élevé. Mais cette fois-là, c'est plus le manque, appelons ça comme ça, de diplomatie ou de politesse des Américains, parce qu'ils ont le droit de faire ça. Depuis 1951, ils peuvent construire des bases militaires. On l'a répété en 2004 officiellement, mais on doit normalement consulter puis négocier certains aspects de ces constructions. Et le Groenland, pas plus tard qu'hier, déplorait finalement l'approche qui utilise plus la force et l'intimidation, mais cette fois-là, c'est la force dans les discussions. On va pas respecter la consultation. Voici où on veut ces 3 bases-là, puis on va décider de comment ça va se passer. Donc, les Américains ont le droit d'être là. Ils ne vont pas prendre possession de l'île, mais ils imposent pas mal leur vision du développement des bases militaires à l'intérieur de l'entente qui a déjà été autorisée.
En 2 minutes, Luc Laliberté, comment ça se passe la relation entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump actuellement? Parce qu'on parle d'appels quand même assez houleux ces temps-ci.
Ouais. Netanyahou a déjà obtenu beaucoup de la part de Donald Trump. Donc, on répète d'ailleurs, les sources pointent dans cette direction-là. Si Donald Trump a donné son OK pour frapper l'Iran dans une opération conjointe avec Israël, c'est parce que Netanyahou lui-même avait convaincu Trump à la Maison-Blanche dans une rencontre d'une heure, 1 heure et demie, présentation de vidéos, discussion brève, puis on attaque l'Iran. Maintenant, Donald Trump, on le voit très bien, traîne le dossier iranien comme un boulet très impopulaire dans les sondages pour d'autres raisons, mais entre autres pour la gestion du conflit. Et il se serait parlé avant-hier au téléphone, Netanyahou et Trump, et il y a des sources qui ont informé des sites américains, dont le site Axios, si jamais vous cherchez l'origine de la nouvelle. Et ce qu'on dit, c'est que Netanyahou, littéralement, grimpait dans les rideaux, dans le langage populaire, il capotait, il a pété les plombs pendant la rencontre, parce que Donald Trump a évoqué la possibilité d'un plan de négociation qui mènerait à la paix puis au désengagement américain dans le conflit iranien. Et Netanyahou ne veut pas en entendre parler. Lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on poursuive les opérations. Mais Trump a déjà donné beaucoup. Il a donné ce que beaucoup d'autres présidents américains ont refusé à Netanyahou, parce que Netanyahou avait présenté cette offre-là à plusieurs présidents. Obama avait dit avoir décliné. Biden avait décliné. Donc, Netanyahou veut le beurre et l'argent du beurre dans ce dossier-là. Et là, il semble, puis je termine ma réponse à ta question, il semble que Netanyahou, après avoir accroché maintenant, veut s'inviter aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump dans un tête-à-tête. Et on peut penser que ce qu'il veut, c'est regarder Trump dans le blanc des yeux sans avoir à soucier des autres qui étaient sur la ligne avec Donald Trump au moment de la discussion, parce qu'un président ne parle jamais seul au téléphone. Il y a plein de gens qui écoutent et qui parfois participent. Donc, pas impossible que Netanyahou débarque pour tenter une seconde fois de convaincre Donald Trump de continuer.
Qui vivra, verra. Merci, Luc Laliberté.
Hey, bonne journée à vous deux. Bonne journée aux auditeurs. Bye. Bon match ce soir. Bon.